Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Alain Pascal. Bonsoir Alain.
Ami croisé, bonsoir.
Alain qui a son rond de serviette, hein, puisque c'est l'invité que nous avons de loin le plus reçu dans cette émission.
Merci.
L'émission de ce soir va être dense, chers amis, et je remercie d'avance Alain de sa patience. Dans une première partie, je vais rendre hommage à un Français en béton armé, Pierre Pucheux. Que vous avez déjà pu, donc vous avez pu découvrir le visage grâce à la miniature, la belle miniature faite par Pierre Letirmont. Dans une deuxième partie, je réfuterai la vidéo que Mathieu Lavagna m'a consacrée et dans laquelle il nie l'infaillibilité pontificale une fois encore. Et une fois encore, c'est absolument fascinant, en faisant dire à des théologiens ce qu'ils ne disent pas, voire même l'inverse de ce qu'ils disent. C'est pourquoi j'accentuerai mon propos sur les difficultés de lecture et de compréhension de mon contradicteur. Et dans une troisième partie, Alain nous parlera de son dernier livre et plus principalement de René Girard. Voilà, auteur que je dois l'avouer, en fait je l'ai lu il y a très longtemps et j'en ai plus aucun souvenir. Et en plus à l'époque où je l'ai lu, j'étais pas catholique, donc je n'aurais sans doute pas le même regard aujourd'hui. Voilà, donc Alain va nous parler de cet auteur à qui il rend hommage. Alors comme vous le savez chers amis, avant de commencer les émissions, nous faisons des annonces habituelles. Donc tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez aller chez nos amis de la librairie française au 202 rue Lecourbe. Voilà. La librairie française qui est un bastion de francité. En plus, il y a un nouveau libraire, donc n'hésitez pas à aller le saluer et à le soutenir et l'encourager. Vous pouvez aussi aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Vous y trouverez des bons bouquins catholiques, et notamment le catéchisme des chanoines Moisset, 60 ans de religion conciliaire, etc., etc. Ensuite, les vrais, bien entendu, peuvent aller sur le site des éditions L'Estocade. Et aussi, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons. Appel aux dons, déjà, pour la radio, puisqu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, chers amis. Pierre Tirmont a mis en description un lien Tipeee à cet effet. Appel aux dons également pour l'école des Trois-Saint-Jean en Belgique, pour l'école Saint-Éloi, qui de mémoire est en Anjou, et pour l'école Notre-Dame Auxiliatrice, qui est dans la commune de Béton, en Bretagne. Vous pouvez aussi faire un petit don pour nos amis du monastère de l'œuvre de l'Étoile. Alors, je vous annonce qu'avec Alain, nous ferons une séance de dédicace le samedi 29 novembre, donc ce samedi-là, à la librairie Françoise, donc 202 rue Lecourbe. On commencera vers 14h30, 15h. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir, nous serons deux à dédicacer. Je voulais que d'autres auteurs soient là, mais malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Mais voilà, Alain nous fait l'amitié d'être là, donc... n'hésitez pas, c'est une façon aussi de réagréger la qualité françoise.
Ce serait un plaisir de signer avec vous.
Anna. C'est gentil, mon cher Alain. D'ailleurs, je crois, en parlant de signature, que vous en avez d'autres de prévues.
J'en ai une le
bientôt.
Vendredi 28, c'est-à-dire la veille, à Paris, à la librairie Logos. Donc le 28 à Logos et le 29 avec vous à la librairie française.
Alain Pascal est plus dynamique que jamais, plus lu que jamais et plus suivi sur Internet que jamais. C'est ce que j'observe.
Une chaîne YouTube et
par ailleurs,
des abonnés de plus en plus nombreux.
Par ailleurs.
J'espère atteindre les 10 000 dans pas trop longtemps.
Oh bah vous allez le faire, vous allez le faire.
Bien sûr.
Bon bah écoutez, chers amis, on va commencer la première partie de cette émission, donc dans laquelle je vais vous parler de Pierre Pucheux. Alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas tout creuser ce soir et je vous reparlerai dans une émission ultérieure l'année prochaine, plus longuement de Pucheux. Parce qu'il faut que vous découvriez ces belles figures françaises. Pierre Tirmont, d'ailleurs, si vous pouvez mettre des photos de l'intéressé pendant que je fais cette partie, ce serait cool. Voilà. Donc j'ai écrit ce bouquin, comme vous le savez, chers amis, Le roi, le dauphin et le connétable, pour faire la véritable histoire de Vichy. Ce qui implique notamment de savoir qui sont les véritables héros et qui sont les véritables salauds. Et Pierre Pucheux est présenté par le pouvoir comme étant un salaud, alors qu'en réalité, c'était un héros, qui a sauvé de très nombreuses vies françaises et communistes. Vous observerez que je ne mets pas français et communiste dans le même panier, parce que ce n'est pas les mêmes paniers. Voilà. On ne peut pas être français et communiste à la fois. Cette démonstration n'a jamais été faite. Un héros donc qui a combattu à la fois l'occupant allemand et à la fois l'ennemi communiste. Donc nous parlons, comme je vous l'ai dit, de Pierre Pucheux. Alors Pierre Pucheux est d'origine bernaise et il vient d'un milieu extrêmement modeste. Il est né le 27 juin 1899 à Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. et son père était un modeste artisan tailleur. Pierre Pucheux était quelqu'un de très intelligent, et très jeune, il a été remarqué par un de ses professeurs. Ça lui permettra d'obtenir une bourse et de s'élever socialement par un parcours scolaire extrêmement brillant. En 1917, le jeune Pierre Pucheux intègre le lycée Louis-le-Grand, où il prépare Normale Sup, et l'année suivante, en 1918, il intègre Normale Sup. Mais il ne peut pas y rester, pourquoi ? Parce qu'il est mobilisé. D'ailleurs, son père était mobilisé dès 1914, et Pierre Pucheux, avec son frère et sa mère, est allé vivre chez une de ses tantes, porte de la Chapelle à Paris, et Pierre, à l'époque, dormait sur un matelas dans la cuisine avec son frère. Donc Pierre Pucheux fait la guerre. À la fin de la guerre, il termine ses études brillantes, et il intègre l'industrie. En 1924, il rencontre sa femme Jacqueline, avec qui il a 4 enfants, et il commence à s'intéresser à la politique en 1934, en se rapprochant du colonel de Larocque. Il finit par s'éloigner de lui et il se rapproche d'un certain Doriot. Mais il va finir par s'éloigner de Doriot, puisque Doriot était favorable aux accords de Munich, tandis que Pucheux, lui, y était défavorable. Grâce à ses liens dans la finance, Pucheux va intégrer le premier gouvernement de l'amiral Darlan. Et le 25 février 1941, il devient secrétaire d'État à la production. À ce poste, Pucheux va avoir une activité anti-allemande, notamment en donnant comme consigne aux industriels qui travaillent avec la Wehrmacht de ralentir un maximum leur cadence. Voilà. Pas que comme ça, mais notamment. Tout cela, bien entendu, est sourcé, chers amis. Le 18 juillet 1941, Pucheux devient secrétaire d'État à l'intérieur, donc ministre de l'Intérieur. Et quelques semaines plus tard, va commencer la vague d'attentats communistes qui donnera lieu à un grand nombre de fusillades d'otages par les Allemands, puisque en représailles des attentats communistes, les Allemands fusillaient des otages. Donc les communistes ont du sang sur les mains. Mais Pierre Pucheux, lui, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, et par son activité, par sa pression sur les autorités, va réussir à empêcher un grand nombre de fusillades et il va sauver un grand nombre de vies, des centaines de vies. Voilà. Néanmoins, le 21 octobre 1941, un membre de son cabinet, sans que Pucheux le sache, soit mis au courant de ça, va donner aux Allemands une liste d'otages à exécuter en priorité si fusillade il doit y avoir. Et les communistes vont toujours en faire grief à Pucheux alors qu'il n'y est pour rien. Alors, comme vous le savez, il y avait à Vichy des camps d'internement qui avaient été hérités de la Troisième République. En décembre 40, il y avait 50 000 personnes dans ces camps, dont à peu près 70% de Juifs, qui venaient d'Europe de l'Est, pour la quasi-totalité. Et Pucheux a eu comme politique de vider un maximum ces camps. C'est si bien que à l'été 42, eh bien, il y aura moins de 10 000 personnes dans ces camps. Ce qui fait que ça sera autant de personnes en moins déportables quand vont arriver les premières déportations à l'été 42. Et Daneker, le responsable allemand des déportations en France, va, passez-moi la formule, péter un plomb lorsqu'il verra qu'il y a aussi peu de personnes dans les camps à déporter. Concernant la question juive, Pucheux avait donné pour consigne au préfet de la frontière suisse de laisser passer les juifs qui voulaient s'enfuir en Suisse. Tout cela est raconté notamment par l'historienne israélienne Limor Yagil. Alors, fait très intéressant également, fin 41, début 42, Pucheux, qui est ministre de l'Intérieur, chers amis, reçoit dans ses bureaux, donc dans les bureaux du ministère, à Vichy, l'un des résistants les plus importants de France, Henri Freinet, à deux reprises. Et Pucheux va faire libérer des compagnons d'Henri Freinet. Il propose à Freinet de se joindre à lui, mais Freinet va refuser, ce qui aura des conséquences, je pense, mauvaises pour l'histoire de France. Par ailleurs, Pucheux avait fait libérer des résistants importants, notamment le général Cochet. Retenez le nom du général Cochet, on va reparler dans un instant. Et aussi le colonel Groussard, à qui il va proposer également de le rejoindre, mais Groussard va refuser. Pucheux avait tout fait pour combattre l'influence de la LVF en zone sud, et également l'influence du parti de Doriot. Et pour l'anecdote, Pucheux avait également fait interdire les pamphlets, les fameux pamphlets de Céline en zone sud, ce qui lui vaudra les moqueries de « Je suis partout ». Donc, quand Laval revient au pouvoir en avril 1942, Pucheux quitte le gouvernement, il va alors rédiger un rapport dans lequel il se prononce pour une alliance plus prononcée avec les États-Unis. Il n'est pas au courant des tractations qu'il y a entre Darlan et les Américains. Il donne ce rapport à Pétain, qui temporise. Pucheux va en être extrêmement déçu. Pucheux ne sait pas à ce moment-là que le maréchal Pétain a déjà un plan de retour de la France dans la guerre, dont l'amiral Darlan est la cheville ouvrière. Mais Pucheux n'est pas mis au courant de cette mission. Lorsque les Américains débarquent en Afrique du Nord, le 10 novembre, Pucheux prend la route de l'Espagne, et il va essayer de rejoindre justement l'Afrique du Nord. Le 4 février 1943, il envoie une lettre au bonnet d'âne, le général Giraud, pour lui demander de reprendre une place au sein de l'armée française. Giraud accepte, dans une lettre qui date du 2 mars. Sauf que Giraud ne peut rejoindre le Maroc que le 8 mai. Et Giraud avait demandé à ce que Pucheux arrive incognito au Maroc. Mais ce ne sera pas le cas, puisque sur le bateau, eh bien, il sera reconnu. Donc il est mis au Maroc en résidence surveillée. Et 3 mois plus tard, le Comité français de libération nationale signe un acte d'incarcération de Pucheux. Acte signé par Giraud. Ce qui est assez minable. Voilà, il faut bien le dire. Donc, début mars 1944, a lieu le procès Pucheux. Qui sont les juges de Pucheux? Qui sont les juges Tartuffe, il faut bien le dire, de Pucheux? Alors, un petit instant, je vous prie, on y arrive. Alors, c'était page combien tout ça? Excusez-moi. On va y arriver, rassurez-vous. Alors, tac, 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 355.
Je vais juste dire un mot.
Dites donc.
J'apprécie chez vous, c'est que vous rétablissez la véritable histoire. On vit sur des fantasmes, on vit sur des hystéries, quasiment.
Ah non, des hystéries tout court.
Voilà. Et elles servent à nous culpabiliser. Elles servent à culpabiliser la France et les Français. Et 80 ans après, le mouvement national, notamment, n'a pas eu le droit d'arriver au pouvoir parce qu'il y a cette falsification de l'histoire.
Tout à fait.
Donc, je ne suis pas un spécialiste de la période que vous couvrez, mais voilà, vous avez raison de vous attaquer à ce monument.
Et il y a beaucoup de... Effectivement, il y a une justice à rétablir.
Voilà.
Alors, les juges de Pucheux sont les personnages suivants. Donc, Vérin et Fischer, deux magistrats qui avaient prêté serment au maréchal Pétain. Les généraux Schadbeck, Schmitt et Cochet. Donc Cochet, rappelez-vous, c'est un résistant que Pucheux avait fait sortir d'internement. Hein. Bon. Quant à Schadbeck, il n'a rejoint la France combattante que le 18 février 1943. Donc c'est pas un vrai de vrai. Hein. Et le général Pierre Weiss, dont d'aucuns disaient qu'il n'était pas forcément hétérosexuel, il avait rédigé une ode au maréchal Pétain en décembre 1941. Donc on voit les Tartuffes qui se permettent de juger Pucheux. Des témoins à charge vont venir, comme c'est leur rôle, charger Pucheux, des témoins à charge communistes. Un faux témoin communiste, André Mercier, député, va se ridiculiser à la barre en accusant Pucheux des rafles de juifs qu'il y a eu à Paris en 1941. C'est ridicule, puisque Vichy n'avait rien à voir avec sa rafle qui avait été faite par les Allemands, soit parce que les Allemands avaient réquisitionné eux-mêmes la police parisienne, soit parce qu'ils avaient eux-mêmes opéré au rafle. Ensuite, un autre faux témoin communiste, le minable député Fernand Grenier, va accuser Pucheux d'avoir donné des listes d'otages communistes aux Allemands. Et il va produire un faux document en justice. Pucheux l'interpelle en lui disant « Ce document, c'est vous qui l'avez écrit, faux témoin que vous êtes. Je puis dire ici, la tête haute devant vous, que j'ai sauvé des centaines d'otages. » Voilà. Donc le rôle de résistance de Pucheux va être relevé au procès, puisque le général Bétoire va dire que en février 1942, lorsque Pucheux est venu en Afrique du Nord, il lui a dit qu'il espérait qu'un général donnera le signal de la dissidence. Et le capitaine Becbédé, qui était membre du cabinet Pucheux, qui était un résistant, explique donc justement toute l'activité de résistance de Pucheux. Résistance au bon sens du terme, parce que c'est un mot que je n'aime pas employer, que je ne m'attribue pas, je n'aime pas l'employer, quoi. Voilà, parce que c'est un mot équivoque, puisque comme les lecteurs de ce livre savent que la résistance a entretenu un amalgame avec les terroristes. Donc, pour moi, l'action anti-allemande consistait à nuire à l'effort de guerre allemand, et c'est ça la position patriotique qu'il fallait avoir, mais les terroristes communistes ne peuvent pas être rattachés à la résistance. Tuer des Français n'a rien à voir avec le fait de réduire l'effort de guerre allemand. Bon. Bref, chers amis, Pucheux est condamné à mort. Et le 20 mars, donc 1944 toujours, à 4h30 du matin, ses deux avocats, Maître Butin et Goudbaron, accompagnés d'un aumônier, vont le trouver à sa prison. La première chose que fait Pucheux, c'est de vouloir s'isoler avec le prêtre. Procédons par ordre, dit-il, voulez-vous, je vais m'entretenir avec vous, mon père. Donc ça, ça veut dire que Pucheux, chers amis, a reçu les sacrements. Il est mort en état de grâce. Ça n'allait pas de soi, parce qu'il n'était pas tout à fait, pas du tout même catholique pratiquant, même s'il ne reniait pas son ascendance catholique. Pucheux va demander au colonel Monnery de dire à Giraud, en fait, de lui notifier tout son mépris et de lui dire qu'il s'est déshonoré à ses yeux. Bon. Et à la prison, le général Cochet, qui est pris de remords et qui avait demandé à De Gaulle de sursoir à l'exécution, donc le général Cochet arrive et voit Pucheux. Pucheux lui dit ceci, « Sortez, monsieur, allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. Vous auriez pu vous souvenir que c'est moi qui vous ai fait sortir de prison et que sans moi, Dieu sait, vous seriez en ce moment. Sortez. » Pucheux va donc demander au colonel Monnery une faveur, la faveur de commander lui-même le peloton d'exécution qui va l'abattre, puisqu'il ne veut pas que ce soit un officier français, il ne veut pas que l'armée française se déshonore avec son propre assassinat, si je puis dire. Donc, Pucheux arrive à l'hippodrome, et là, il va dire à l'adjudant chargé normalement de s'occuper du protocole, il va lui dire qu'il prend sa place. Pucheux ensuite se dirige vers les 12 soldats qui doivent tirer. Il leur pose quelques petites questions, il leur serre la main, il leur parle, et voilà. Pucheux ensuite se rapproche du poteau, mais avant cela, eh bien, il embrasse, après un moment d'hésitation, il embrasse le crucifix que lui tend l'aumônier. Il se tourne ensuite vers ses deux avocats. D'abord vers Maître Goudbaron, qui l'étreint. Il lui dit « Au revoir, maître ». Et son avocat lui répond « Oui, au revoir. Nous nous retrouverons dans un monde meilleur ». Pucheux prend ensuite dans ses bras son deuxième avocat, Maître Butin, qui lui dit « Adieu, mon petit, et merci ». Pucheux va se placer ensuite devant le poteau et il scrute ce qui l'entoure. Ensuite, il interroge les soldats. « Êtes-vous prêts, messieurs ?» Il lève le bras droit. À quel moment il en joue, son bras retombe. Feu. Et le corps s'effondre à droite du poteau. Ses avocats viennent lui fermer les yeux, lui étendent les jambes et lui joignent également ses mains. Et des soldats pleurent pendant que l'aumônier récite des prières. Donc voilà le genre d'homme, chers amis, que la Révolution ne voulait pas voir vivre. Voilà. Pierre Pucheux est le seul Français depuis le maréchal Ney à avoir commandé son peloton d'exécution. Il est mort pour le dernier royaume de France. Et retenez bien ça, chers amis, qui résume tout, qui résume toute la dégueulasserie de ce système qui a détruit la France. Le 14 février 1945, Jacqueline Pucheux, veuve de Pierre Pucheux, est sommée par le pouvoir de régler la somme de 1573 francs au titre des frais du procès. Bande de minables. Bande de minables. Voilà qui en dit tout sur la... Enfin, qui dit toute l'essence, qui résume toute l'essence de ce qu'est la République. Voilà. Donc, chers amis, je rends hommage à Pucheux et je reparlerai de lui à ce micro plus en détail, puisqu'il y a énormément de mensonges à annihiler. J'en arrive maintenant...
J'aurais juste dire...
Allez-y.
À propos des crimes communistes, parce que vous avez peu insisté...
Ils sont spécialistes en la matière.
Beaucoup, voilà. Et on oublie toujours, personne n'en parle. L'épuration, vous avez des procès, qui sont d'ailleurs truqués, il y a des gens...
Procès, oui,
bien sûr. On oublie d'ailleurs aussi que certains communistes ont été publiés avec l'autorisation allemande, dont Sartre, dont Aragon, dont tous ces gens-là pactisaient avec les Allemands. On oublie que l'ambassadeur était franc-maçon. Et on oublie surtout que dans le Midi notamment, et sans aucun procès, les communistes ont assassiné à peu près 100 000 personnes, des pseudo-collaborateurs. C'est-à-dire que les collabos, ce qu'on a appelé les collabos, ils sont passés devant des tribunaux. Là, ce sont des morts sans jugement. Et ce sont des assassinats qui ont d'ailleurs servi aussi à accaparer des journaux,
entendu.
Etc.
Et donc, des entreprises, parce que la mort de Renault n'est pas très claire.
Absolument. Voilà, voilà, c'est juste ce que je voulais dire sur les crimes communistes, parce qu'on les oublie et qu'on est toujours...
On les étouffe. Et vous avez raison,
il y a une omerta. Il y a des grands génocides au XXe siècle, dont le génocide, les génocides commis par les communistes.
Il y a une omerta sur cette question.
Et les communistes sont dans les médias et au pouvoir.
Et cette omerta... Et la suivante, puisque nous sommes censés avoir restauré le beau, le bien, les lumières, etc. Mais tout cela est né de quoi ? Du sang des Français massacrés. Si Pétain avait fait le dixième de ça, on en entendrait parler tous les jours.
C'est pour ça que je voulais juste dire ça.
Mais vous avez bien eu raison de le rappeler, mon cher. J'en arrive maintenant, chers amis, à la deuxième partie de l'émission. Mathieu Lavagna a fait une vidéo contre moi dans laquelle, hélas... Il tente de démontrer que la foi catholique est fausse en niant le dogme de l'infaillibilité pontificale. J'en suis triste pour lui. Vous verrez, chers amis, que tous les textes qu'il m'oppose se retournent contre lui, et vous comprendrez pourquoi il fuit la confrontation directe contre moi. Père Thiermont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez afficher les deux commentaires de l'intéressé qu'il a fait sur sa chaîne ? Donc dans les commentaires de sa vidéo, Mathieu Lavagna a écrit, prière de ne pas rire parce qu'il écrit ça au premier degré, le pauvre, que je risque de ne pas me remettre de cette vidéo. Moi je crois au contraire, Mathieu Lavagna, que c'est vous qui allez avoir beaucoup de mal à vous remettre de votre vidéo et de ma réplique. Puisque je vais démontrer que vous n'arrivez pas à comprendre le sens des textes que vous citez. Ce qui est quand même assez ennuyeux quand on se prétend apologète et théologien. D'ailleurs, on se demande quels sont vos diplômes, hein, en passant. Et je vais démontrer que vous ne craignez pas de recourir à la fraude. On se souvient d'ailleurs, dans notre premier débat, Mathieu Lavagna, dans lequel vous étiez assisté par un prêtre de la fraternité Saint-Pierre, donc vous étiez donc deux contre un, on se souvient que, pour nier l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, vous aviez fait dire à des théologiens le contraire de ce qu'ils enseignent. Eh bien là, Mathieu Lavagna, chers amis, récidive dans cet exercice. Alors que me reproche mon contradicteur ? On le voit donc dans le deuxième commentaire que je vais lire. Il nous dit ceci. Dans un récent débat que j'ai eu avec le cédévacantiste Adrien Abosi, ce dernier soutenait mordicus que le magistère de l'Église était toujours infaillible sur la foi et les mœurs. Effectivement, mon cher Mathieu Lavagna, je persiste et je signe, et c'est l'enseignement de l'Église comme je vais le démontrer dans un instant. Et que les papes ne pouvaient jamais enseigner l'erreur dans le cadre de leur magistère. Et effectivement, je confirme, et Mathieu Lavagna conclut, or ceci est faux. Retenez bien, chers amis, Mathieu Lavagna nous dit qu'on peut enseigner l'erreur dans le cadre du magistère. Je ne dénature pas ses propos, je les reproduis. Bon. Donc, pour préciser d'ailleurs mon propos, donc effectivement, le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs lorsqu'il enseigne à l'Église universelle avec l'intention d'obliger, sachant que l'intention d'obliger résulte du simple fait de s'adresser à l'Église universelle. Donc oui, le magistère est infaillible, toujours infaillible, en matière de foi et de mœurs. Tant d'ailleurs dans sa branche ordinaire que dans sa branche extraordinaire. Et j'ajoute que l'infaillibilité pontificale est quotidienne. Alors Pierre de Tirmont, si vous voulez bien, pouvez-vous me mettre la pièce numéro 1 ? Nous allons voir ce qu'en pense l'Église, car je n'ai pas d'opinion théologique personnelle, chers amis. Ma position, c'est celle de l'Église. Donc, on se souvient, chers amis, que Mathieu Lavagna me fait grief de dire qu'il ne peut pas y avoir d'erreur en matière de foi et de mœurs dans le cadre du magistère de l'Église. C'est bon, Pierre Thiermont ? Donc, on va demander à Léon XIII ce qu'il en pense. Donc, citation de l'encyclique de Léon XIII, Libertas. « Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. » Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère, et ce divin magistère, eh bien, a le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Pas d'erreur en matière de foi et de mœurs, c'est ce que dit Léon XIII, et c'est ce dont Mathieu Lavagna me fait grief, chers amis. Mathieu Lavagna n'a pas la même religion que Léon XIII. Pie XI, dans Divini Illus Magistri, nous disait « À ce magistère, le Christ a conféré l'infaillibilité ». Mathieu Lavagna nous dit que dans certaines circonstances, le magistère n'est pas infaillible. Pie XI n'est pas d'accord. À ce magistère, le Christ a conféré l'infaillibilité. Il y a plus puissant encore, chers amis. Citation de Léon XIII, Satis Cognitum. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité. Donc le magistère a l'autorité de Jésus-Christ. Comment un magistère qui a l'autorité de Jésus-Christ pourrait enseigner l'erreur en matière de foi et de mœurs ? Plus loin, il, notre Seigneur, a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Si les enseignements du magistère doivent être reçus comme ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, par définition, c'est qu'ils sont infaillibles. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous donner du poison, ne peut pas nous enseigner le faux. Ressaisissez-vous, Mathieu Lavagna. J'ajoute que dans Mortalium Animos, Pie XI nous dit que le magistère de l'Église s'exerce chaque jour. En effet, le magistère de l'Église s'exerce chaque jour. Et nos contradicteurs nous disent « Oui, mais ça ne vaut que pour le magistère ordinaire universel. » C'est totalement faux. C'est pour le magistère au sens large dans ces deux branches. Qu'est-ce qui me permet de le dire ? La suite du texte. Puisque dans la suite du texte, Pie XI évoque « Ce magistère, donc on parle du même, comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. » Définition en forme et termes solennels, cela renvoie au magistère extraordinaire. Ce passage, donc, s'applique à tout le magistère. Le magistère s'exerce chaque jour. Et Pie XII nous dit dans Homini Generis qu'il s'exerce par la voie ordinaire ou la voie extraordinaire. Et il nous dit, dans un autre passage qu'on a très souvent cité à ce micro, que le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire, eh bien, ont la même valeur, ont la même autorité. Pierre de Tirmont, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons mettre les pièces. Alors, attendez, juste pour terminer à ce sujet. Donc, le magistère de l'Église, comme l'enseignent tous ses papes, est infaillible en matière de foi et de mœurs. Lorsqu'il y a magistère, il y a infaillibilité en matière de foi et de mœurs. Et quand le pape ne parle pas dans le cadre de ce magistère, effectivement, il n'est plus infaillible. Ce qui n'est pas infaillible dans le cadre du magistère, c'est ce qui ne relève pas de la foi et des mœurs. Mais en matière de foi et de mœurs, comme le dit Léon XIII, mot pour mot, c'est pour ça que c'est dingue que Mathieu Lavagna, qui se dit catholique, qui ose se dire catholique, le soutienne. Donc, en matière de foi et de mœurs, il n'y a pas d'erreur dans le magistère. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, je tiens à préciser, chers amis, que le pape ne parle pas ex cathedra uniquement lorsqu'il fait des définitions dogmatiques. Donc, il n'est pas ex cathedra uniquement lorsque il définit. Pierre de Tirmont, s'il vous plaît. Enfin, il n'est pas uniquement. Ne parle pas ex cathedra uniquement dans le cas du magistère extraordinaire. Pierre de Tirmont, pardonnez-moi. Pouvez-vous mettre la pièce numéro 2 à la place de la numéro 1 ? C'est un extrait d'un article de l'abbé Perrault, qui est issu de la revue, L'Ami du Clergé, et ça date de 1923. Que nous dit l'abbé ? C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, j'en ai pour un petit instant. Il nous dit ceci. Ce n'est pas seulement quand il use de son magistère extraordinaire par une définition solennelle qu'il, donc le pape, parle ex cathedra, mais encore quand il fait office de son magistère ordinaire et qu'il se contente de faire savoir que tel point concernant la foi ou les mœurs doit être tenu par les chrétiens. Donc ce n'est pas seulement quand il parle ex cathedra dans le cadre de son magistère ordinaire, n'est-ce pas ? Il parle également ex cathedra quand il fait office de son magistère ordinaire, c'est très clair. Et puisque vous aimez bien les théologiens Mathieu Lavagna, je vous en cite un qui fait autorité, qui est Don No, et qui dans son ouvrage « Une source doctrinale, les encycliques » écrit ceci, citation, la citation sera mise à l'écran tout à l'heure, mais je l'ai dit d'ores et déjà, « En écoutant l'enseignement des encycliques, expression du magistère ordinaire, c'est le Christ lui-même que nous entendons. » C'est le Christ lui-même que nous entendons. Quand on écoute le magistère ordinaire Mathieu Lavagna, on écoute le Christ. C'est ce que nous disait d'ailleurs Léon XIII dans Satis Cognitum. Quand on écoute le magistère, donc y compris le magistère ordinaire, dont vous niez l'infaillibilité, c'est le Christ qu'on écoute. Donc ma position concernant le magistère est celle de l'Église catholique. Donc pourquoi Mathieu Lavagna, et plus largement les tradis, accusent-ils les sédévacantistes ? d'étendre le champ de l'infaillibilité pontificale. Et particulièrement, pourquoi font-ils grief de défendre l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église? C'est très simple. Puisque dans le magistère ordinaire des faux papes modernistes, on trouve maintes et maintes hérésies. Donc, à cause de cela, on est contraint de faire le constat de la vacance du siège. Donc, pour ne pas faire le constat de la vacance du siège, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ment sur ce qu'est véritablement la portée de l'infaillibilité pontificale. On dénature le dogme de l'infaillibilité pontificale. Et il y a aussi une autre dimension chez mes contradicteurs, c'est qu'ils n'assument pas la religion qui est professée par leur Église, qui n'est pas la mienne d'ailleurs. Leur Église professe une religion et ils ne l'assument pas. Ils ne veulent pas être solidaires de l'enseignement de leur pape. A-t-on vu dans l'histoire de l'Église en 2000 ans des catholiques ne pas être solidaires de l'enseignement de leur pape, chers amis? Ça n'existe pas, un catholique qui n'est pas solidaire de l'enseignement du pape. Ça n'existe pas. Bon. Bref, Mathieu Lavagna me fait grief d'être catholique. Et il me fait grief d'adhérer au magistère de l'Église. Donc en toute logique, dans sa vidéo, il ne m'oppose absolument aucun texte du magistère de l'Église. Et pour cause, le magistère le contredit. Mais tout ça est très intéressant, parce que ça signifie qu'il n'a rien trouvé dans l'enseignement de l'Église à m'opposer. Donc, cela signe sa défaite. C'est-à-dire que l'enseignement de l'Église ne va pas dans son sens, et il ne le cite pas. L'enseignement de l'Église va dans mon sens, et je ne fais que me fonder sur lui. Donc, que fait Mathieu Lavagna? Il nous oppose des théologiens. Je me fonde sur le magistère infaillible de l'Église. Que fait Mathieu Lavagna? Il m'oppose des théologiens faillibles. Il n'a, semble-t-il, pas assez lu Humani Generis de Pie XII, dans lequel il nous rappelle que le magistère est supérieur à la vie des théologiens. Cher Mathieu Lavagna, si 1000 théologiens s'opposent au magistère de l'Église, contredisent le magistère de l'Église, c'est le magistère de l'Église qui a raison. Ce ne sont pas les théologiens. Désolé de vous le dire. La vérité, c'est pas démocratique. C'est pas le plus grand nombre qui a raison. La vérité, c'est l'adéquation du réel et de notre intelligence. Bon. Et la vérité, c'est ce qu'enseigne l'Église en matière de foi et de mœurs. Bon. Donc jamais les théologiens n'auront raison contre le magistère de l'Église Mathieu Lavagna. Je vous rappelle, Mathieu Lavagna, que des très grands théologiens ont parfois été condamnés par l'Église. Être théologien n'immunise pas contre l'erreur. Bossuet et Origène étaient des grands théologiens. Et bien, quand ils ont fait des écrits dans lesquels il y avait des erreurs, l'Église les a repris et les a condamnés, tout en reconnaissant par ailleurs leur mérite. Voilà. Donc vous hissez les théologiens, à vous donner aux théologiens une autorité qu'ils n'ont pas. L'autorité suprême dans l'Église, l'argument d'autorité ultime en théologie, c'est le magistère de l'Église. Pie XII nous dit dans Humani Generis que c'est la règle prochaine de la vérité. Mais ceci étant posé, chers amis, les théologiens que me cite Mathieu Lavagna vont-ils à l'encontre des textes du magistère que je vous ai évoqué? Eh bien, pour la plupart d'entre eux, non. Et c'est ça qui est absolument fascinant dans la vidéo de mon contradicteur. C'est que Mathieu Lavagna ne comprend pas ce qu'il lit. À l'instar de ce qui se passe dans le premier débat qu'on a fait ensemble, il cite des théologiens sur lesquels il fait des contresens. Il passe son temps à faire des contresens sur ce que disent les théologiens qu'il cite. Il fait dire à ces théologiens ce qu'ils ne disent pas, voire l'inverse carrément de ce qu'ils disent. Et je vais vous le démontrer, chers amis. Bon. Alors, avant de vous parler des théologiens, Mathieu Lavagna cite un article du Code de droit canon. Et là, on n'est plus seulement de l'erreur, on est dans la fraude, puisque j'ai déjà repris Mathieu Lavagna sur ce point, et il fait comme si je ne lui avais pas porté la contradiction. Donc Mathieu Lavagna cite l'article du droit canon de 1917 qui nous dit ceci. « Aucune chose ne doit être tenue pour déclarer ou définie dogmatiquement en l'absence de preuves manifestes. » Est-ce que vous pouvez, Pierre de Tirmont, s'il vous plaît, mettre les pièces 3A et 3B, je vous prie. Donc, j'ai déjà réfuté Mathieu Lavagna sur ce point. Mathieu Lavagna fait un commentaire de cet article du Code de droit canon et il nous dit qu'un passage d'une encyclique, donc du magistère ordinaire de l'Église, n'est pas une preuve de déclaration ou de définition d'un pape. Petite parenthèse, il le dit en l'absence de tout argument d'autorité. C'est une pure invention de sa part. Il est autoréférentiel. Donc, ma pièce 3A est un extrait du commentaire de cet article du Code de droit canon par le père Augustine, qui lui est un théologien, Mathieu Lavagna, approuvé par l'Église. Et que nous dit le père Augustine dans ce texte? Il nous dit que le magistère extraordinaire et le magistère ordinaire de l'Église sont des preuves que quelque chose a été défini. Et il rappelle qu'ils ont la même autorité, puisqu'ils dérivent tous les deux de la même source. Par ailleurs, dans la pièce 3B, je cite une encyclique notamment de Pie XI, dans le Quadragesimo Anno, dans lequel il dit que Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, définit. Donc on définit dans les encycliques Mathieu Lavagna. Apprenez-le. Bon. Et au passage, on revoit cette très belle citation de Donneau. En écoutant l'enseignement des encycliques, expression du magistère ordinaire, c'est le Christ lui-même que nous entendons. Qu'avez-vous à répondre à cela, Mathieu Lavagna? Donc, Mathieu Lavagna fait dire au code de droit canon ce qu'il ne dit pas. Je l'ai déjà relevé dans une émission précédente. Il ne fait pas son mea culpa, il ne se rétracte pas. Donc là, on est au niveau qui n'est plus celui de l'erreur, mais on est au niveau de la fraude. C'est scandaleux de procéder ainsi, Mathieu Lavagna. Voilà. C'est de la manipulation de votre auditoire. Bon. Et on va voir qu'il fait la même chose avec les théologiens, c'est-à-dire qu'il leur fait dire ce qu'ils ne disent pas. Et c'est absolument fascinant. Donc nous allons observer, chers amis, que Mathieu Lavagna fait dire à 5 théologiens ce qu'ils ne disent pas, premièrement. Deuxièmement, nous allons voir que parmi ces 5 théologiens, il fait une fausse citation d'un de ces théologiens. Troisièmement, nous allons voir que 2 autres théologiens, dont un qui a été condamné par Saint Pie X, donc, disent des choses fausses. Et quatrièmement, nous allons voir que Mathieu Lavagna fait dire au dictionnaire de théologie catholique l'inverse de ce qu'il dit. C'est-à-dire que le DTC, dictionnaire de théologie catholique, nous dit « le magistère ordinaire est infaillible, les encycliques sont infaillibles, Immortale Dei est infaillible ». Et Mathieu Lavagna fait une vidéo dans laquelle il nous dit que selon le DTC, le magistère ordinaire n'est pas infaillible, les encycliques ne sont pas infaillibles et Immortale Dei n'est pas infaillible. Vous verrez, c'est fascinant. Hein, bon. Alors on va commencer d'abord par les théologiens. Donc Mathieu Lavagna veut démontrer que le magistère de l'Église n'est pas infaillible dans certaines circonstances. On ne sait pas lesquelles, mais bon, il nous dit dans certaines circonstances, le magistère de l'Église n'est pas infaillible. Bah donc très naturellement, il doit s'appuyer sur des théologiens qui soutiennent que le magistère de l'Église, dans certaines circonstances, n'est pas infaillible. Or, que fait Mathieu Lavagna? Il cite des théologiens qui ne disent absolument pas ça. Il cite des théologiens qui disent que le pape n'est pas infaillible lorsqu'il ne parle pas dans le cadre du magistère. Donc, que je sois clair, nous cherchons des théologiens qui parlent de l'action du pape dans le cadre du magistère, et dont Mathieu Lavagna nous dit qu'il ne serait pas infaillible, on ne sait pas pourquoi. Et Mathieu Lavagna nous évoque des théologiens qui disent que le pape n'est pas infaillible en dehors du magistère. Ce n'est pas la problématique soulevée, Mathieu Lavagna. Il y a une confusion grossière dans votre esprit. Vous êtes complètement largué. Vous êtes complètement largué. Vous vous revendiquez d'une autorité que vous n'avez pas. Vous ne comprenez pas des textes parfaitement clairs. Donc là, période de sermon, si vous voulez bien, nous allons mettre la pièce numéro 4. Puisque moi, contrairement à vous, Mathieu Lavagna, j'étaye mes dires. Voilà, je fais des démonstrations, je ne procède pas par des affirmations péremptoires et je ne me hisse pas comme référence théologique en inventant des principes qui n'existent pas. Donc Mathieu Lavagna cite par exemple le théologien Benedict Heinrich Merkelbach. Que dit-il? Citation. « Quand l'Église n'enseigne pas avec son autorité infaillible. » Donc il ne parle pas du magistère. Bon. Et d'ailleurs, il dit plus loin que c'est très rare. Ça, c'est intéressant, puisque vous, Mathieu Lavagna, vous êtes de l'école de ceux qui disent que l'Église n'engage quasiment jamais son infaillibilité. Et bien le théologien que vous citez est en train de vous dire le contraire. Autre exemple, Domenico Palmieri. Vous nous dites, lorsque cela n'est pas défini ex cathedra, l'erreur n'est pas impossible. Lorsque cela n'est pas défini ex cathedra, donc on est en dehors du magistère de l'Église. Les théologiens ne disent pas que dans le cadre du magistère, il y a une marge de manœuvre possible pour l'erreur. Autre exemple, vous évoquez Christianus Pesch, il nous dit, sans engager son autorité suprême. Donc il n'engage pas le magistère, s'il n'engage pas l'autorité suprême, Mathieu Lavagna. Restez sérieux, ça ne concerne pas notre problématique. Pareillement, vous citez Gérard von Nort, nous disent « Certains théologiens compétents concèdent que le pape, lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, pourrait tomber dans l'hérésie formelle. » Donc, en dehors du magistère. Donc, toutes ces citations ne concernent pas ce que vous voulez démontrer. Donc, je répète, ces théologiens ne disent pas qu'il y a absence d'infaillibilité dans certaines circonstances, dans le cadre du magistère, ils disent qu'il n'y a pas infaillibilité en dehors du magistère. Ça n'a rien à voir. Vous faites une confusion totalement grossière, Mathieu Lavagna. Vous êtes largué, passez-moi la formule, complètement largué. Et alors, encore plus grave, Mathieu Lavagna, c'est que vous attribuez une citation au théologien Hugo Hurter, or cette citation, elle n'existe pas. Chers amis, Mathieu Lavagna cite un livre d'Hugo Hurter, dont il y a la référence dans sa vidéo, que vous pouvez trouvée sur le site archive.org, où je suis allé pour voir si la citation existait réellement. Cette citation n'existe pas. Que fait-il dire au théologien Hugo Herter? Il lui dit qu'il est permis de craindre une erreur dans le cadre du magistère de l'authentique. Donc il fait dire à Hugo Herter qu'il y a une possibilité d'erreur dans le cadre du magistère. Pourquoi c'est insupportable, chers amis? À double titre. Premièrement, la référence que donne Mathieu Lavagna, dans la défense qui est donnée par Mathieu Lavagna, on ne retrouve pas cette citation. Et moi, en lisant et en traduisant des passages de ce livre qui est en latin, j'ai trouvé des citations qui disent rigoureusement le contraire de ce qu'il dit. C'est absolument odieux. C'est absolument odieux comme procédé. Et je vais vous faire des citations. Pierre Timon, s'il vous plaît, pièce numéro 5, je vous prie. Est-ce que je vais retrouver ça? Voilà. Donc, à la page 305 du livre, est-ce que Hugo Herter va nous dire qu'il y a une marge de manœuvre pour l'erreur dans le magistère de l'Église? Citation, c'est pourquoi le Christ a institué un magistère authentique et infaillible. Et il s'arrête là. Et il ne dit pas qu'il y ait des possibilités d'erreur. Plus loin. Et il dit qu'il fait ça, donc, pour que les fidèles reçoivent l'enseignement de la foi. Est-ce qu'on reçoit l'enseignement de la foi s'il y a des erreurs dedans, Mathieu Lavagna? Plus loin, page 285. C'est pourquoi le magistère ecclésiastique est doté d'infaillibilité, afin que les fidèles soient préservés de l'erreur. Donc Mathieu Lavagna nous dit, dans le magistère, il y a une marge de manœuvre pour l'erreur. On ne sait pas dans quelles circonstances, mais il nous l'affirme. Hugo Herter nous dit le contraire. Il nous dit, afin que les fidèles soient préservés de l'erreur. Donc le magistère de l'Église est doté de l'infaillibilité. Il dit le contraire de ce que vous lui attribuez comme propos. Et pareillement, page 536, j'ai trouvé ceci, l'assentiment à la vérité formellement révélée par le magistère infaillible, donc il ne dit pas qu'il y a des exceptions, par le magistère infaillible et usant de son autorité doctrinale infaillible, doit être un acte de foi divine et catholique. Donc résumons, chers amis, résumons. Mathieu Lavagna fait dire à Hugo Herter que l'on peut craindre une erreur dans le cadre du magistère de l'Église, dans le magistère infaillible des papes. En réalité, Hugo Herter enseigne que grâce au magistère de l'Église, les fidèles sont préservés de l'erreur. Mathieu Lavagna n'a, semble-t-il, pas compris ce qu'il a lu, sous réserve qu'il ait lu quoi que ce soit de ce théologien dont il invente une citation. Et il n'avait pas compris ce qu'il avait lu des théologiens précédents. Ensuite, Mathieu Lavagna cite un théologien qui s'appelle Ludwig Ott, qui nous dit ceci, « La forme ordinaire et habituelle de l'activité enseignante du pape n'est pas infaillible. » Si par là, ce théologien veut dire que le magistère ordinaire du pape n'est pas infaillible, eh bien dans ces cas-là, il dit quelque chose de faux. Et il n'a pas raison contre Pie XI, il n'a pas raison contre Pie XII. Les théologiens sont faillibles, Mathieu Lavagna, et celui que vous citez nous le prouve. Mais, à sa décharge, peut-être n'a-t-il pas lu à l'époque, peut-être que n'avaient pas été faites toutes les mises au point sur l'autorité et l'étendue du magistère faites par Léon XIII, par Pie XI, etc. Car Mathieu Lavagna, dans un commentaire, ricane en disant « Ah, ces théologiens n'ont pas lu les extraits du magistère cités par Abosi. » Ben, c'est pas impossible qu'il ne l'ait pas fait, Mathieu Lavagna. C'est pas impossible. Sachant que, comme je l'ai dit, je le répète, vous ne comprenez pas ce qu'ont dit la plupart d'entre eux, et la plupart d'entre eux vont totalement dans le sens de ce que dit le magistère de l'Église à ce sujet. Et alors là, c'est le plus succulent, dernier théologien cité par Mathieu Lavagna, qu'il qualifie de grand théologien, qui s'appelle Dikamp. Dikamp, Mathieu Lavagna, a été condamné par Saint-Pinice. Parce qu'il appartenait à une ligue qui cherchait à faire supprimer la congrégation de l'index. C'est ça vos références? Franchement? Bon, c'est ça que vous opposez au magistère infaillible de Léon XIII, de Pie XI, de Pie XII, etc. Et donc, dans la citation faite par Mathieu Lavagna, dont d'ailleurs, j'aimerais être sûr qu'elle soit exacte, puisque quand on voit ce qu'il a fait avec le pauvre Hugo Herter, bon, Dikamp dit qu'il y aurait des actes du magistère non infaillibles du pontife romain. Ben, moi, je vous réponds que ça n'existe pas. Soit il y a un acte du pontife romain qui relève du magistère, et le magistère est infaillible en matière de foi et de mœurs, et seulement n'est pas infaillible ce qui ne relève pas de la foi et des mœurs, soit on a un acte pontifical qui ne relève pas du magistère de l'Église, et là, eh bien, il n'y a pas de protection par l'infaillibilité, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y a forcément erreur, hein, puisque vous entretenez une ambiguïté à ce sujet-là. Bon. Et alors maintenant, chers amis, on en arrive à ce que j'appelle l'apothéose. Il n'y a pas d'autre mot. Dans mon débat contre Mathieu Lavagna et un clerc de la fraternité Saint-Pierre, Mathieu Lavagna avait nié l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église en se fondant sur l'article du Père Dublanchy qu'on retrouve dans le dictionnaire de théologie catholique, le DTC. C'était une fraude monumentale, pour laquelle d'ailleurs il n'a fait aucun mea culpa après le débat. Hein. Puisque dans le DTC, le Père Dublanchy, au contraire, soutient que le magistère de l'Église, le magistère ordinaire de l'Église, est infaillible et que les encycliques ont des insertions infaillibles, donc en matière de foi et de mœurs, et que Immortal Edei de Léon XIII est infaillible en matière de foi et de mœurs. Pierre Thiamon, s'il vous plaît, pièce 6A et 6B. Donc on va citer le texte que Mathieu Lavagna prétend, sur lequel il prétend se reposer dans sa vidéo. Alors on va voir si on nous dit que le magistère ordinaire n'est pas infaillible, chers amis. Donc cette infaillibilité peut s'étendre aux actes du magistère ordinaire, dans la mesure et aux conditions précédemment indiquées. On doit affirmer que le pape enseignant seul en vertu de son magistère ordinaire est infaillible. Qu'est-ce qui n'est pas clair là ? On doit affirmer que le pape enseignant seul en vertu de son magistère ordinaire est infaillible. Donc là, on déduit de ça que le DTC enseigne que le magistère ordinaire n'est pas infaillible, mais on se moque de qui là ? On se moque de qui ? Vous trompez votre public, Mathieu Lavagna. Consciemment ou non, c'est pas mon problème, mais vous trompez votre public. Plus loin, on nous dit ceci, comme exemple d'enseignement infaillible du magistère ordinaire, du pape, nous indiquons particulièrement dans les encycliques de Léon XIII, donc on dit bien que dans l'encyclique de Léon XIII, c'est infaillible en matière de foi et de mœurs, Mathieu Lavagna. Et il cite Immortal Edei. Alors que Mathieu Lavagna nous dit que ce document n'est pas infaillible, et il nous dit que les encycliques ne sont pas infaillibles. Alors pourquoi il ne le fait pas ? Je pense parce qu'il a mal compris un passage qui vient un peu plus loin dans le DTC, dans lequel on nous parle de certains actes d'enseignement pontifical non infaillible. Mais cet enseignement pontifical non infaillible, Mathieu Lavagna, c'est ce qui ne relève pas de la foi et des mœurs. Ce ne sont pas les mots qui sont employés, mais c'est l'idée qui est exprimée. On nous dit ceci. On ne nous dit pas, dans le passage qui suit, que les encycliques ne sont pas infaillibles. On nous dit que des assertions doctrinales dans les encycliques ne sont pas infaillibles. Oui, celles qui ne relèvent pas de la foi et des mœurs. Bon. Donc beaucoup d'assertions doctrinales dans les encycliques de Léon XIII et de Pie X, donc Saint Pie X aujourd'hui, donc ne sont pas infaillibles. Donc il nous dit que c'est celles qui sont sans indication de son appartenance à la révélation, donc ça ne concerne pas la foi et les mœurs, ou à la tradition catholique constante et universelle par la foi et par la soumission due à la souveraine autorité du pontife romain. Donc tout ça, autrement dit, ça veut dire que ça ne relève pas de la foi et des mœurs. Et plus loin, on nous dit que ne sont pas infaillibles les arguments qui sont opposés pour un jugement doctrinal, mais qui ne concernent pas l'objet direct et immédiat de ce jugement doctrinal. Mais à aucun moment on nous dit que les encycliques ne sont pas infaillibles en matière de foi et de mœurs, et à aucun moment on nous dit que Immortal Edei n'est pas infaillible en matière de foi et de mœurs. C'est une pure invention de Mathieu Lavagna. Mais cher Mathieu Lavagna, si le DTC avait dit « le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible », les encycliques ne sont pas infaillibles en matière de foi et de mœurs, et Immortal Edei n'est pas infaillible en matière de foi et de mœurs. Si le DTC avait dit cela, eh ben il se serait trompé. Parce que le DTC n'a pas raison contre le magistère de l'Église. Il n'a pas raison contre l'Église. Il n'a pas raison contre un enseignement qui relève de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, Mathieu Lavagna. Vous cherchez à vous agripper à des théologiens parce que vous savez que le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, vous donne tort. Eh bien, ça ne marche pas. Car les théologiens que vous citez disent bien souvent l'inverse de ce que vous dites. Bon. Donc en résumé, chers amis, en conclusion, Mathieu Lavagna fait plusieurs sarcasmes sur le fait que je sois avocat. Vous savez, Mathieu Lavagna, les avocats, ils ont beaucoup de défauts. Mais ils ont quand même une qualité, c'est qu'ils savent lire et qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils lisent. Et j'ai démontré ce soir que vous ne comprenez pas le sens de ce que vous lisez. Les avocats ont par ailleurs une deuxième qualité, Mathieu Lavagna, c'est qu'ils font jouer le principe du contradictoire. Et lorsque le contradictoire leur donne tort, ils n'insistent pas, puisque ça ne sert à rien, si ce n'est à irriter le juge. Donc ça veut dire qu'ils n'insistent pas quand ils sont dans le faux. Or, vous, Mathieu Lavagna, je vous ai repris à plusieurs reprises sur des choses que vous avez répétées dans votre vidéo. Je vous ai réfuté de façon incontestable, c'était pas très compliqué d'ailleurs. Et vous maintenez. Donc là, on est dans le registre de la fraude. Je suis désolé de vous le dire. Donc, charitablement, Mathieu Lavagna, charitablement, je vous invite à rétracter vos hérésies et vos attaques folles, folles, contre le magistère de l'Église. Et si vous persistez, Mathieu Lavagna, eh bien cessez de vous défiler et acceptez une confrontation contre moi face à face. Notre débat, notre premier débat, dont je suis heureux parce qu'il a permis de faire la promotion de la position de Nakoum et dont je ne retire rien de ce que j'ai dit sur le fond, dans notre premier débat a été truqué par vous, Mathieu Lavagna, à double titre. Il a d'abord été truqué parce que vous étiez deux contre un. Et il a été truqué parce que pendant tout le débat, vous avez affiché votre argumentation, Et la mienne n'a jamais été affichée à l'écran. Vous ne m'avez pas prévenu de cela. J'ai découvert sur place. C'est un pur scandale. Bien que d'ailleurs que vous ayez truqué le débat, sur le fond, vous n'avez rien trouvé d'autre à faire que de défendre le modernisme et de défendre le texte qui instaure le rituel de bénédiction des couples homosexuels. Bravo, 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 Mathieu Lavagna. Bon. Donc cessez de fuir la confrontation. Et je vous oppose, Mathieu Lavagna, pour terminer, des versets bibliques. Je vous oppose deux versets de l'épître de Saint Jean. Saint Jean nous dit ceci. Alors peut-être que vous allez dire que c'est pas un faible en matière de foi et de mœurs. Si, si, c'est un faible, hein, les Saintes Écritures, Mathieu Lavagna. Quiconque fait le mal, et du verbe haïr, la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui fait le mal se planque. Celui qui fait le mal refuse la confrontation, Mathieu Lavagna, puisqu'il a peur d'être dévoilé. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Mathieu Lavagna, si vous défendez la vérité, pourquoi ne venez-vous pas à la lumière? Je réclame la lumière, vous la refusez. Pourquoi, Mathieu Lavagna, ne venez-vous pas à la lumière? Ben, je vais vous le dire pourquoi, Mathieu Lavagna. Parce que la lumière dévoile que vous êtes un moderniste, qui défend le modernisme, et qui défend une fausse église, qui est en vérité une secte moderniste. Une fausse église qui professe à tour de bras des hérésies entre guillemets ex-cathédra. Une fausse église, Mathieu Lavagna, qui multiplie les actes d'apostasie les plus invraisemblables. Une fausse église qui bénit les couples homosexuels. Une fausse église qui donne la communion aux adultères. Une fausse église qui a introduit un entre guillemets 8e sacrement qu'ils sont allés chercher chez les protestants pentecôtistes, le baptême dans l'Esprit Saint. Une fausse église qui pratique l'incinération, chose qui a été condamnée par l'église pendant 2000 ans. Et une fausse église qui récemment a retiré à la Très Sainte Vierge Marie plusieurs de ses titres. Voilà ce qu'est l'antisédévacantisme. Et c'est pas très brillant, Mathieu Lavagna. Donc vous refusez la lumière parce que la vérité vous accuse et parce que la vérité vous condamne, tout simplement. J'en ai terminé. Alors on va faire, chers amis, une petite pause musicale de 2 minutes. Et ensuite, Alain, ça sera à vous de jouer. Ça vous va?
Très bien.
À tout à l'heure.
Jeune Seigneur et ton œuvre splendide, un cœur de feu et d'un âme de guerrier, tu le donnes à la Vierge timide, que tu voulais couronner de laurier. Sainte Jeanne de France, notre espérance espérance du haut des cieux.
Chers amis, nous arrivons à la troisième partie de l'émission. J'ai oublié de vous dire un petit truc en intro. C'est que Prévost, maintenant, commence à s'attaquer aux filioques. Les, entre guillemets, gréco-catholiques, je dis entre guillemets parce qu'en fait, ils sont gréco-modernistes aujourd'hui, hein, de Hongrie, ont, semble-t-il, retiré le filioque de leur profession de foi. Et Prévost a fait un récent document dans lequel il nous dit qu'il faut abandonner les controverses passées à ce sujet. Donc ça veut dire qu'il faut abandonner la position catholique qui avait été affirmée face aux schismatiques orientaux à ce sujet. J'ai pas assez creusé le dossier, chers amis. Je lirai plus attentivement le document, parce que le document est sorti il y a 24-48 heures, donc j'ai pas eu le temps de creuser à fond. Mais on en reparlera probablement à ce micro. Alors maintenant, mon cher Alain, c'est à vous de parler. Et je crois qu'avant d'attaquer sur René Girard, vous avez des petits trucs à nous dire.
Oui, juste une petite remarque. Je vais pas aller sur le débat de fond, hein, puisque j'ai pas écouté ce débat. Mais sur ma démarche intellectuelle, vous avez parlé de l'index.
Oui.
Alors, on peut faire des erreurs. Hein. Moi, je suis redevenu catholique. Hein. C'est un parcours. Je l'ai été baptisé, mais c'est par l'étude de la philosophie que ma foi a été fortifiée. Et je me suis aperçu que l'index ne s'était jamais trompé. Que, par exemple, quand je dis du mal de Descartes, alors il y a des gens qui me disent « Oui, oui, Descartes est catholique. » Je dis « Non. » Et il a été mis à l'index. Pas tout de suite. Érasme a été mis à l'index. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'on voit des philosophes pervers, parce que c'est comme ça qu'il faut les nommer, pervers sur un plan intellectuel, ils ont été mis à l'index. L'Église ne s'est jamais trompée. Et ça m'a beaucoup impressionné. On peut tous faire des erreurs, donc l'erreur fait partie. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'obstination. Vous savez que, voilà, quand on s'obstine dans l'erreur, là, on devient vraiment... Et le dernier petit mot, c'est aussi, dans ce parcours, Léon XIII, et pour moi un très grand pape. Tout et il y a une encyclique qui m'a beaucoup marqué, qui est celle où il condamne la franc-maçonnerie, puisque c'était
mon sujet,
la énième condamnation, puisque les francs-maçons sont condamnés depuis 1738, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et il condamne dans la même encyclique la franc-maçonnerie, en disant que les francs-maçons ouvrent la voie aux socialistes, et ils condamnent tous les socialistes. Donc, dans les socialistes, il y aura les socialistes communistes, ça va rejoindre mon sujet, qui sont parmi les plus grands meurtriers de l'histoire de l'humanité.
Tout à fait.
Et les nationaux socialistes, mais dans national-socialiste, il ne faut pas oublier socialisme, n'est-ce pas ? Et tous les socialismes remontent à une philosophie qui découle de Descartes. Donc un disciple de Descartes qui est Spinoza. Donc si vous voulez, il y a quand même une logique hein, qu'il faudrait suivre et qu'il faut comprendre. Et dans la même encyclique, c'est ça qui va rejoindre mon sujet, c'est qu'il condamne le naturalisme.
Oui.
C'est-à-dire que l'encyclique est à la fois politique et elle est philosophique. Parce qu'il explique bien que toutes les erreurs modernes viennent du naturalisme. Qu'est-ce que c'est que le naturalisme ? C'est la négation du surnaturel. C'est la négation de Dieu, qui est de la faute de Descartes, qui ouvre la voie aux idéalistes, dont les pires sont les idéalistes allemands. J'ai un livre qui sortira bientôt sur les idéalistes allemands. Et évidemment, pour les condamner, et 90% des philosophes d'aujourd'hui sont les héritiers des idéalistes allemands. Donc, si vous voulez, il ne faut pas. On n'est pas dans le discours purement intellectuel. Et donc, et la gnose maçonnique est une gnose naturaliste. Donc, en fait, cette encyclique m'avait beaucoup marqué parce que, moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a fait redevenir aussi catholique, c'est l'amoncellement des cadavres. On est dans le réel, hein. Je ne suis pas dans le discours intellectuel. Le XXe siècle a été une monstruosité. Voilà. 200 millions de morts. Jamais, en proportion d'êtres humains sur Terre...
Plus ceux de l'avortement, hein.
Donc,
Inchiffrable. Hein.
Voilà. Mais inchiffrable, absolument. Hein. Et l'avortement, je le considère comme un sacrifice.
Tout à fait.
C'est-à-dire, on sacrifie des enfants à naître. Alors, il y a un aspect politique. Bon, dans l'année prochaine, mon premier livre qui s'appelait « La trahison des initiés » va avoir 30 ans. Malheureusement, tout ce que
j'ai... Bon anniversaire.
Merci. Et tout ce que j'ai écrit dedans, c'est réalisé. Donc, j'aurais préféré avoir tort. Mais il est évident que l'avortement... Alors là, on n'est pas dans le sujet, mais ça ne fait rien.
Non, mais il faut parler de l'avortement.
On est de tout, mais l'avortement, il y a deux décisions qui sont parallèles. C'est l'avortement et l'immigration. Donc, si vous voulez, on tue des enfants à naître et on fait venir d'autres personnes en France.
Si vous permettez, Alain, oui. Il y a trois décisions parallèles. Il y a l'avortement, l'immigration. Et juste avant, il y a un truc. La pseudo-mespolsis. C'est-à-dire que la pseudo-mespolsis n'est pas un sacrifice, ce n'est pas valide. Et quand on arrête le véritable sacrifice, eh bien, on le troque par un sacrifice humain, voilà, qui est l'avortement.
On va le... Alors, je ne m'engagerai pas sur...
Moi, je m'engage et je le dis.
Absolument. Mais par contre, ce que vous dites est parfaitement exact dans la mesure où, justement, le grand apport, on va en discuter, du christianisme, c'est de mettre fin au sacrifice humain.
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
Donc, et, si vous voulez... Si vous permettez... et la messe renouvelle le sacrifice.
Je cite Mgr Gomme, Alain, je vous coupe, oui. C'est que Mgr Gomme vous dit, si vous retirez le sacrifice divin, vous revenez au sacrifice humain. Donc vous retirez la messe catholique en la remplaçant par la fausse messe Paul VI, on retourne à l'avortement. Il y a un lien entre les deux.
Et le Monseigneur...
C'est ça que je voulais dire.
...qui est aussi de la fin du XIXe siècle.
Oui, oui.
Si on avait écouté Monseigneur Gaume, et si on avait écouté Léon XIII, on n'en serait pas où on en est.
Mais tout à fait, ouais, tout à fait.
Donc si vous voulez, c'était la remarque. Mais ça rejoint mon livre sur René Girard, dont on va peut-être parler.
Oui, allons-y. Allons-y. Alors, cher Alain, oui. Moi qui suis sceptique sur l'intéressé, peut-être à tort, je ne sais pas. J'ai pas lu son. Donc, enfin, je l'ai lu il y a très très longtemps. Et j'étais pas caduque, comme je vous l'ai dit. Moi qui suis sceptique de prime abord sur René Girard, quel est l'intérêt que nous, catholiques et nationalistes français du XXIe siècle, pouvons avoir pour son œuvre?
Alors.
Pourquoi ça vous intéressait, vous? Pourquoi voilà, cet hommage?
D'abord, il a fait, lui aussi, il a fait, j'ai plusieurs auteurs, pas nécessairement catholiques, qui ont fait partie de mon parcours intellectuel. Il y a Guénon, il y a des gens comme ça, je les critique, mais j'ai un moment de ma vie, j'ai beaucoup étudié aussi les traditions orientales, j'ai écrit un livre sur...
On le voit dans
en le critiquant dans mon L'intelligence du chrétien.
Oui,
j'ai fréquenté des gens qui professaient le Tao chinois, etc. Je me suis beaucoup intéressé à toutes ces histoires des religions. Et au rapport entre le sacré et le profane, c'est-à-dire où est la violence, est-ce que le sacré éteint ou n'éteint pas la violence, est-ce que la philosophie qui est soi-disant profane éteint ou n'éteint pas la violence. Ce sont des sujets qui m'ont passionné. Et René Girard a fait partie de ce parcours. Alors René Girard, d'abord, c'est, à mon avis, l'un des plus grands penseurs français de la deuxième moitié du XXe siècle.
Il en a payé beaucoup, faut dire.
Justement, il n'y a pas de... Voilà. Et l'intérêt de son parcours, je vais essayer de le résumer. Alors, je n'ai pas écrit un livre sur René Girard.
Oui,
j'ai écrit un livre en hommage à René Girard. Et en fait, j'ai cité dans ce livre, j'ai fait une introduction sur sa vie, mais j'ai cité les textes que j'avais écrits sur lui ou à propos ou en le corrigeant. Donc, si vous voulez, c'est un recueil des textes. Je dis ça parce que
un morceau choisi,
voilà, j'ai des lecteurs qui ont tous mes livres. Je les remercie d'ailleurs. Et dans ce livre-là, ils retrouveront des textes qui ont déjà été publiés. Donc je ne veux pas vendre ce livre, évidemment. Par contre, ça a un intérêt parce que quand on les regroupe, on a une logique.
C'est-à-dire bien sûr.
On trouve... moi, dans chacun de mes livres, j'ai toujours des arrière-pensées. Ce que j'ai écrit il y a 30 ans est en relation avec ce que je vais écrire demain. Donc si vous voulez, simplement... D'abord, on n'est pas dans un pays libre, donc il faut faire attention à ce qu'on écrit. Et ensuite, il faut... j'ai appliqué une grille de lecture siècle après siècle, et donc là, j'ai regroupé ce que j'avais pu écrire siècle après siècle. L'intérêt, donc j'ai lu René Girard il y a une quarantaine d'années, et j'ai lu deux livres qui sont La violence et le sacré, et un autre livre qui s'appelle Des choses cachées depuis la fondation du monde. Et je ne les ai pas lus nécessairement dans la même optique que lui. Mais le grand intérêt de Girard, c'est qu'il commence. Alors, je vais résumer sa vie. Donc, il vit en France. Et en fait, il s'occupe d'abord de littérature. Il a écrit un livre qui l'a fait connaître en 1961.
Vérité romanesque
Non, ce qui est le mensonge romantique et vérité romanesque.
Ouais, voilà.
Alors déjà, c'est un livre que je n'ai pas cité. Parce qu'il ne m'a pas intéressé nécessairement, c'est là-dedans qu'on trouve la rivalité, alors le désir mimétique, qui sont des choses de psychologie. La seule chose intéressante dans ce livre, c'est que quand il parle de mensonges romantiques, déjà ça a été très mal vu, parce que Rousseau est l'ancêtre des romantiques. Donc ça veut dire que le sentiment, déjà, les romantiques eux-mêmes ont beaucoup menti, sauf Chateaubriand, mais les autres, notamment Stendhal, dont Gérard fait un éloge. On oublie que Stendhal, d'abord, est un franc-maçon, et ensuite a participé à l'élaboration du mythe de la Renaissance, donc qui n'existe pas. Pas aussi menteur que Michelet, mais là, ça sera pour un autre livre. Mais vous voyez ce que je veux dire. Gérard n'a pas la notion de la perversité de la littérature. Simplement... Il reprend dans la littérature, il est certain que les génies littéraires, ce sont des analystes de la personne humaine.
T'es entendu.
Donc c'est pour ça qu'ils passent à la postérité en dehors de leur style.
Bien sûr.
Voilà. Et donc ce livre-là ne m'avait pas intéressé. Et en fait, moi ce qui m'a intéressé, c'est le parcours de Gérard. Donc il est... Alors d'abord, il n'enseigne pas en France, parce qu'il n'est pas freudien. Donc il fait de la psychologie, mais il n'est pas freudien. Donc déjà... Il ne peut pas enseigner, et il n'est pas marxiste. Donc, il va enseigner aux États-Unis. Alors, il y a des raisons personnelles. Alors, je n'ai pas lu la vie de Gérard, mais vous savez, dans la même maison d'édition, ça au Verbe Haut, Sylvain Durin, qui est un spécialiste de Gérard, que j'ai connu parce qu'il avait écrit sur Gérard, d'ailleurs, a écrit un livre qui s'appelle « René Gérard, du désir à la violence », où il résume sa vie, le parcours de René Gérard plus complètement. Voilà. Et il va aux États-Unis et il va être connu aux États-Unis. Donc il va écrire ensuite « La violence et le sacré, des choses sacrées depuis la fondation du monde ». Et il va être traduit dans 20 langues. Et quand il est traduit, qu'il est célèbre dans le monde entier, on l'a quand même mis à l'Académie française, enfin un académicien qui méritait d'y être, parce que la France aurait été ridicule que l'auteur le plus lu dans le monde, dans les milieux intellectuels, ne soit pas à l'Académie française. Donc en fait, il a été ostracisé. Et pourquoi ? C'est qu'il passe de la psychologie à l'anthropologie, donc ce qui m'a intéressé, c'est l'anthropologie, notamment l'analyse. C'est pour ça que ça s'appelle la crise sacrificielle. Qu'est-ce que c'est que la crise sacrificielle ? Je vais essayer de l'expliquer.
Oui.
Et qu'à partir de cette anthropologie, il comprend que le christianisme apporte une solution au sacrifice humain et qu'à partir... Il commet encore des erreurs dans ces livres-là. Et par contre, je n'avais pas lu, et c'est Sylvain Durin qui me l'a fait lire il y a quelques années, un dernier livre, donc en 99, il écrit un livre que je recommande, qui s'appelle « Je vois Satan tomber comme l'éclair », dans lequel il revient sur un certain nombre d'erreurs qu'il avait pu faire. Donc déjà, il y a quelqu'un qui a écrit depuis 30 ans, qui est célèbre, et qui ne s'enferre pas dans les erreurs. C'est quand même méritoire.
C'est rare, en plus.
Et à la fin de sa vie, il est catholique. C'est-à-dire qu'il meurt en catholique. Il est venu de la littérature païenne. L'anthropologie qui est entre les mains des ennemis du christianisme à 90%, et il finit catholique. Donc c'est quand même un parcours. Il a commis des erreurs, moi aussi, et on en commet tous.
On en commet tous des erreurs.
Y compris des erreurs intellectuelles.
Y compris votre serviteur.
Mais il est revenu dessus. Et ça, je trouve que c'est admirable. Et si vous voulez, cette notion de crise sacrificielle qui m'a fait comprendre, donc qui fait partie des auteurs qui ont changé mon mode de pensée, mais j'avais, moi, ce qui m'a marqué, si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'échec moderne, c'est-à-dire que la philosophie moderne qui a fait table rase, la révolution fait table rase du christianisme, on change de civilisation, on rentre dans un monde moderne, dans les temps modernes, et tout devrait aller bien. La liberté, l'égalité, tagada, sanction. Et en fait, tout va de mal en pis. Et les hommes tuent de plus en plus. Il n'y a jamais eu autant de morts qu'au temps moderne. Donc il doit y avoir une erreur dans la philosophie moderne. Et comme ensuite on découvre, et ce que j'ai découvert, que, bah, je ne suis pas le premier, ce n'est pas la question, que la philosophie moderne, notamment à cause de Descartes, était une inversion du langage de la scolastique chrétienne, c'est que la vérité, elle devait se trouver dans la scolastique. Et pourquoi la vérité est-elle dans la scolastique ? C'est la scolastique respecte la parole du Christ. Donc le Christ fait une révélation supérieure à toutes les révélations parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc il y a une intelligence du christianisme qui est supérieure à notre petite intelligence, même si elle fonctionne, parce qu'elle est celle du Fils de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on peut donner un appui philosophique, métaphysique, à la révélation théologique. La philosophie doit être au service, elle a été pendant des siècles au service de la théologie. Alors, elle est devenue, avec la philosophie moderne, l'anti-théologie. Et à cause de l'antithéologie, notamment de l'athéisme...
Je suis d'accord, Alain, c'est-à-dire que voilà. La philosophie moderne sert à détruire, l'ordre chrétien. Ça, c'est clair, net et précis.
Et aujourd'hui, on est dans la révolution... Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les droits de l'homme contre Dieu ».
Hein, tout à fait.
Les droits de l'homme
titre. Bon,
c'est l'homme qui prend la place de Dieu, donc ce sont les droits de l'homme contre Dieu. Et après 200 ans de civilisation des droits de l'homme, le christianisme est en voie d'éradication, est en tout cas extrêmement menacé. Et notamment en France. Alors avec une petite... c'est dans un autre livre. J'ai parlé de... Excusez-moi, je vais le présenter aussi. Mmh. C'est mon livre
d'avant qui s'appelle
« Pour une révision totale de l'histoire ». Je ne le dis pas d'ailleurs là-dedans, mais je vais le mettre à l'appui. C'est que moi, je suis témoin des faits. C'est-à-dire que j'ai connu mai 68, j'ai écrit un livre dessus, 80, etc. En 1981, quand les socialistes arrivent au pouvoir... par la faute de la fausse droite, c'est un autre problème, par la faute du général de Gaulle, qui avait donné la culture à Malraux, ce qui a permis aux communistes de mettre laver les cerveaux dans les médias, appelons les choses par leur nom, ils arrivent au pouvoir. Il y a en France 70% de Français qui sont de confession catholique. Vous savez combien on en est aujourd'hui? À 30%.
Moi, je pense qu'on est même à beaucoup moins. Mais
voilà,
bon, ça,
c'est un
autre problème.
Ouais. Moi,
on se comprend.
Je suis œcuménique. Hein. Je crois à tous les gens qui croient au Christ. Après, voilà.
On se comprend, mon cher.
Il y a des nuances. Oui. Nous,
mais
il
y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. On s'est compris.
Mais voilà, ça, c'est un fait.
Ah oui, c'est un fait.
Et la civilisation chrétienne est en péril. La révolution, il y a un ministre qui est d'ailleurs socialiste qui a écrit ça, elle n'est pas terminée. À l'heure actuelle, le pouvoir actuel est en train d'achever la révolution, c'est-à-dire d'achever la destruction de la France, appelons la chose, de la France catholique.
Bien sûr.
Voilà. Donc on est dans l'actualité.
Tout à fait.
Donc, et Girard, lui, alors il n'est pas un contre-révolutionnaire, parce qu'il n'a pas cet aspect-là, mais il est un anti-moderne, dans la mesure où il dit la philosophie moderne n'a pas été capable de. Alors son autre grand mérite, c'est évidemment de dire que... Alors il faut bien rappeler, d'abord on va faire le petit parcours, hein, peut-être, vous posez ou pas des questions, mais...
Non mais c'est existe, voilà,
dans le, il faut bien comprendre, dans le temps du paganisme, alors, les païens, pour moi, sont innocents, parce que ceux qui vivent avant le Christ. Bon, après le Christ, quand la révélation de la vérité est totale, à partir de ce moment-là, ceux qui nient la vérité, ou ceux qui continuent dans le mensonge, parce qu'à la vérité, on ne peut pas opposer des fausses vérités. Il y a une vérité supérieure, donc le diable est obligé d'employer le mensonge. Nous sommes dans le monde du mensonge. Mensonge politique et mensonge culturel.
Tout à fait.
Mensonge politique, il suffit d'ouvrir les yeux. Bon. Mais mensonge culturel aussi. Et donc, si vous voulez, les païens avant sont innocents. Mais à partir du moment où il y a la révélation, les philosophes vont sanctifier la philosophie ancienne, ça va être l'hellénisme chrétien et la scolastique, et donc ensuite, on va retomber sous la coupe du diable avec la philosophie moderne. Voilà. L'histoire, elle est religieuse, elle n'est pas politique. La politique n'est que tierce par rapport à la religion et à la philosophie. Voilà. Je remets bien tous ces principes.
Juste 5 secondes. Est-ce que, Pierre Thiemont, vous pouvez voir s'il y a des questions pour Alain après
Mais voilà. Poursuivez, cher ami. Si vous voulez, voilà. Toute l'antiquité païenne sacrifiait des êtres humains. Alors ça, c'est dans Girard, c'est-à-dire que dans Monseigneur Gaume, mais aussi dans je ne sais pas si Girard a connu Monseigneur Gaume, c'est pas sûr, il n'a pas sûr qu'il l'ait lu. Mais il y a un apport de la Bible. Alors lui, c'est d'abord la Bible qui l'a intéressé. Il a osé faire une œuvre scientifique. C'est-à-dire qu'il a osé expliquer que la Bible était un progrès social, parce que on l'a déjà dans l'Ancien Testament, donc nous reconnaissons l'Ancien Testament, je répète ça aussi à ceux qui le nient. Déjà, Caïn et Abel. Hein. Caïn tue Abel. Bon. Et ça, quand Caïn tue Abel, il y a une référence dedans. Alors j'explique ça dans mon tome 2 de l'intelligence du christianisme, que je cite d'ailleurs là-dedans, dans celui-là, pardon, c'est que dans les sociétés agricoles, les premiers sacrifices, alors sacré ça veut dire sacrifice, donc on sacrifiait des êtres humains, et dans les premières sociétés agricoles, on vénérait la terre-mère, des cultes de la lune et de la terre-mère, c'est aussi d'actualité, hein, parce qu'il y a un culte de la terre-mère aujourd'hui qui s'appelle l'écologie.
Oui, Pachamama aussi. Hein,
D'accord. On est toujours dans l'actualité. Voilà. Et on sacrifiait notamment des jeunes filles, vierges, parce qu'il fallait sacrifier des innocents. Et ça servait d'humus. Et il y a une chose extraordinaire dans le meurtre de... Alors, dans l'Antiquité, ce qu'explique Girard, c'est la lutte des jumeaux. Il y a toujours un double, on a toujours peur du double. Bon, parce qu'il y a une rivalité mimétique, il y a une mimésis et un désir qui ne nous appartient pas de ce qu'est l'autre, de ce qu'a l'autre. Un enfant, il y a toujours une mimésie, il veut le jouet de l'autre. On peut vouloir, une femme veut pouvoir, peut valoir, ou pardon, vouloir le mari d'une autre. Excusez-moi sur ces choses très terre à terre, mais ce sont des choses dans la nature humaine, voilà, des envies, des désirs. Mais la violence, elle est provoquée par une rivalité. Et donc, on tue les jumeaux ou on tue les frères. Rémus Romulus, c'est la même chose. La civilisation est fondée. C'est ce que Girard explique, parce qu'on appelle un meurtre fondateur. La civilisation, la société est fondée sur un meurtre. Et ce meurtre sert à nourrir la terre. Et d'ailleurs, Caïn, quand il y a une chose nouvelle quand Caïn dit que tout le monde qu'on va le tuer, et Dieu interdit qu'on tue Caïn. Et il dit d'ailleurs que le sol ne produira plus, Caïn peut verser du sang sur le sol et que ça ne produira plus. Je n'ai pas la phrase exacte, mais je la donne dans le livre, évidemment. Ça veut dire qu'ils connaissent les sacrifices humains des sociétés agricoles. C'est une réponse, les rédacteurs de la Genèse les connaissent. Vous avez un autre apport de l'Ancien Testament, c'est Abraham. Abraham, on lui demande de sacrifier le fils aîné, ce qui était courant, notamment en Orient, et il a la foi, donc il ne se prétend pas supérieur à Dieu, il va obéir, et Dieu retient le bras d'Abraham. On ne sacrifie plus le fils aîné. Et évidemment, tout ça va prendre son sens, la Genèse va prendre son sens avec le Christ, puisqu'il va venir racheter le péché originel, évidemment, et qu'il va, Dieu incarne le Fils, qui va se sacrifier pour mettre fin au sacrifice. Donc, si vous voulez, le sacrifice du Fils de Dieu met fin au sacrifice humain. Alors là, j'ai une divergence avec René Girard. C'est que René Girard a fait une lecture qu'il a appelée non sacrificielle, j'espère pas être trop compliqué, mais ça fait rien.
Pour l'instant, oui.
De la passion du Christ. C'est-à-dire qu'au début, il pense que le sacrifice du Christ ne s'insère pas dans les pratiques sacrificielles. Et ça, c'est dans ce texte qui est extraordinaire, qui s'appelle « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». C'est une parole qui est reprise dans l'Évangile. Et en fait, l'Évangile dévoile les mécanismes sacrificiels. C'est ce qu'explique René Girard. Et pour moi, cette formule a un autre sens. C'est quand le Christ dit lui-même « Je viens révéler les choses cachées depuis la fondation du monde ». Ça veut dire « Il n'y a plus d'ésotérisme ». C'est-à-dire tout est révélé, toute la vérité est révélée. Donc vous n'avez plus des initiés qui connaissent la vérité ou qui dominent la société. Tous les êtres humains peuvent accéder au salut et vont avoir accès à la vérité. Alors il y a aussi donc c'est très important parce que ça veut dire que tous ceux qui se sont prétendus des ésotéristes chrétiens, dont les francs-maçons, sont dans le mensonge par rapport au christianisme. Il n'y a pas d'église de Jean, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Alors là-dessus, il y a des milliers de livres mensongers qui existent que j'essaye de corriger. Girard n'a pas une vision, une lecture sacrificielle de la passion, que moi j'ai évidemment, que j'ai expliqué, que j'ai cité dans ce livre. Et en fait, il est revenu sur cette erreur dans son dernier livre. Donc, si vous voulez, voilà un mérite. Et en fait, ce que j'argumente, c'est que cette lecture sacrificielle, elle est dans saint Paul. Alors, saint Paul, c'est évidemment un génie, et saint Paul a compris qu'il y avait une lecture sacrificielle de la passion du Christ. Le Christ est l'innocent. Alors, dans l'Antiquité païenne, dans ce qu'est la violence, le rapport du sacré à la violence. Donc sacré, ça veut dire sacrifice. Mais les clans, ce qu'explique René Girard, c'est que les clans se réconciliaient par le sacrifice d'un innocent extérieur à la tribu. Parce que si vous sacrifiez un ennemi, l'ennemi va vouloir vengeance et va renouveler la violence. Tandis que la violence s'éteint parce que l'on appelle un bouc émissaire, c'est quelqu'un qui porte, qui est innocent, qui n'a pas participé à la violence, mais sur lequel elle va s'exercer. Et il distingue deux sources de violence. Alors ça, on est dans l'anthropologie, c'est-à-dire que c'est l'analyse scientifique, hein, c'est l'histoire de l'humanité. Une violence qui va qualifier d'impure. La violence impure, c'est celle qui se déchaîne, elle s'enchaîne et elle se déchaîne. Nous la vivons. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'arrêt à la violence, de justice rendue, la violence se déchaîne. Donc c'est un enchaînement de violence. À celle qu'il appelle la violence purificatrice, alors il ne faut pas dire pure parce que le sang coule, mais elle est purificatrice parce qu'elle éteint l'idée des vengeances des clans. Donc si vous voulez, c'est un apport. Et quand les deux violences, quand les deux sacrifices, quand les deux sont confondus, on aboutit à ce qu'il appelle une crise sacrificielle, c'est-à-dire que la violence purificatrice ne remplit plus son rôle. Alors ça a une incidence parce que, sur ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Si le sacrifice du Fils de Dieu n'est plus renouvelé, il n'y a plus, même dans une anthropologie qu'on pourrait dire chrétienne, de sacrifice qui éteigne la violence. C'est-à-dire que la société retourne à la violence parce que le christianisme est en voie d'éradication. Plus la société est antichrétienne, plus la violence va se déchaîner.
Tout à fait.
Voilà.
50 millions d'avortements par an.
Voilà. Donc, si vous voulez, voilà le schéma. Et ça, quand même, alors, René Girard n'a pas mis l'avortement. Bon, il écrit en 78, donc en 78, les dégâts sont pas encore ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et il est mort en 2015, et en 2024, c'était le centenaire de sa naissance. On peut pas dire que les médias aient beaucoup insisté. Voilà. Donc... Voilà, si vous voulez, ce que je voulais dire sur lui.
Non, mais c'était
d'autres choses. Après,
vous voulez relever d'autres points, mon cher Alain ?
Écoutez, je veux pas être trop long parce que j'avais prévu de parler de ça, mais alors j'ai ajouté à lui quand même quelques minutes. Vous m'accordez encore quelques minutes.
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on va voir s'il y a des questions.
C'est d'accord. Moi, j'ai appliqué sa grille de lecture à travers le temps. Et je l'ai appliqué à des notions qu'il ne mettait pas en évidence. Donc, je n'ai pas trahi Girard, parce qu'à chaque fois, j'ai dit, voilà, j'ai cité Girard, mais en même temps, je disais, ça, il ne l'a pas dit, moi, je le dis. Par exemple, la crise sacrificielle a été réouverte par l'islam. Pourquoi ? C'est parce que, alors on va rentrer dans de la métaphysique, mais c'est très important, la violence n'est pas liée au monothéisme, c'est pas parce qu'il y a un monothéisme qu'il y a de la violence, parce que les athées, etc., accusent évidemment le christianisme de violence. Alors, je passe sur tous les mensonges. Mon livre, La révision totale de l'histoire, c'est pour démontrer que tout le baratin qu'on a pu faire sur le catholicisme est la religion la plus tolérante de toutes les époques. Les catholiques sont victimes des guerres de religion. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Je vais pas revenir sur toute la falsification de l'histoire. Ça fait partie d'eux. Mais voilà. Mais si vous voulez... Ce que je veux dire, c'est que la violence, elle est liée au monisme métaphysique. Or, l'islam, qui déroule de la gnose, du Talmud et de la gnose, retombe dans la compromission de l'ésotérisme juif, avec notamment l'ésotérisme égyptien, et retombe dans ce qu'on appelle le monisme métaphysique, le naturalisme, mis en avant par, c'est la même chose, par Léon XIII, c'est-à-dire la négation d'un surnaturel. S'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas le Fils incarné, vous êtes obligatoirement dans un être un. Et en fait, si on est dans un être un, on va détruire toutes les différences, parce que tout vient d'un être un, tout doit retourner à un être un. C'est de l'ésotérisme. Hein. Mais c'est aussi d'actualité. C'est-à-dire que Dieu a créé, par exemple, l'homme et la femme différenciés, mais pour retourner à l'être un, il faut revenir à ce qu'on appelle le mythe de l'androgyne, où l'homme était à la fois homme et femme. Donc, c'est la théorie du genre qu'on enseigne aux enfants à l'école. Voilà. Et avec cette théorie du genre vient avec le monisme métaphysique, donc il n'y a pas de Dieu, donc tout est un, tout est un culte de la nature, écologie, et culte du cosmos. Et le culte du cosmos implique le sacrifice humain. C'est l'anthropologie. Alors, je suis toujours dans l'actualité, moi. Quelle est l'actualité ? Quelle est la philosophie politique du mondialisme ? Le cosmopolitisme, c'est le culte du cosmos appliqué aux politiques. Donc, retour du sacrifice humain. La révolution dite française, qui est une révolution désilluminée, j'ai appelé comme ça parce qu'elle est faite par des... Évidemment, ce n'est pas le peuple de France qui l'a fait. Il y a des massacres, des sacrifices, à commencer par le sacrifice du roi. Il y a un rituel sacrificiel pour sacrifier Louis XVI. Les initiés qui sacrifient Louis XVI savent ce qu'ils font. Et après, on sacrifie le peuple. Il y a 600 000 morts français quand même. Des innocents, évidemment, on sacrifie des innocents parce qu'ils sont catholiques. Et vous avez ensuite, au XXe siècle, la crise sacrificielle du monde moderne. Donc j'ai repris le titre, parce que Girard a parlé de la crise sacrificielle du monde moderne, c'est ce qui donne le titre au livre, c'est que l'illustration, c'est le XXe siècle, et le nôtre, l'accumulation des cadavres. Nous sommes au bord d'une accentuation de la crise sacrificielle, sauf si l'humanité redécouvre évidemment l'intelligence du christianisme. Je parle en catholique, mais je parle aussi... En analyste du politique, en analyste des faits historiques. Nous sommes dans cette situation. La crise sacrificielle, ça n'est pas un concept intellectuel, c'est une réalité. Simplement, voilà, en gros, si je peux résumer. Donc, dans ce livre-là, j'ai regroupé tous les textes dans lesquels j'avais cité Girard, et un autre d'ailleurs qui est aussi Mircea Eliade, qui est un historien des religions, qui est gnostique. Donc voilà, mais dans lequel on peut apprendre. J'ai appris beaucoup de choses, et c'est la même chose. Lui, il a dit que le profane était plus violent que le sacré. Donc, si vous voulez, l'athéisme, pour parler de profane, ou la philosophie, entraîne plus de violence que la religion ou le sacré, y compris sous sa forme archaïque, et évidemment a fortiori. On est dans l'actualité. Il faut bien comprendre ça. Et alors, je vais finir par une dernière nuance. Allez-y. Si je suis trop compliqué, ça ne fait rien. Je vais au fond des choses. Alors, moi, je demande aux gens à réfléchir.
Allez-y.
C'est que, en fait, si vous prenez la philosophie des droits de l'homme, alors évidemment, je demande l'abolition des droits de l'homme et je demande à ce que la France abolisse les droits de l'homme et que le mouvement national, parce que c'est aussi à eux que je m'adresse, refasse du catholicisme la religion d'État. On n'y est pas, mais si la France ne redevient pas catholique, elle n'aura pas retrouvé sa raison d'être. Donc les malheurs qui lui arrivent, elle a quand même subi 3 invasions allemandes, hein, vous en avez parlé d'une, et elle subit une invasion islamique, il faut appeler les choses par leur nom.
Pas que islamique,
pas que islamique, mais une invasion. Bon. Et si vous voulez, il faut qu'elle refasse. Bon. Et les droits de l'homme sont donc contre Dieu, donc il faut qu'ils soient abolis. Voilà. Ça, c'est, évidemment, c'est peut-être pas tout à fait à la mode, mais il faut bien comprendre ça. Et sinon, nous allons vers un retour au primitif. Moi, c'est ça qui m'a toujours impressionné, c'est que le langage moderne est à l'envers, puisqu'au lieu de progresser, le progressisme nous amène à un retour au primitif. Voilà. Donc, reprenons en considération ça. Alors, oui, la seule chose compliquée, je voulais dire, c'est que derrière les droits de l'homme, je le définis comme ça, vous avez un sacré caché. C'est-à-dire que les droits de l'homme se prétendent une philosophie, donc en tant que philosophie, elle serait profane. Mais derrière la philosophie grecque, déjà, vous aviez la mythologie. Les Grecs ont voulu se départir de la mythologie, mais ils sont retombés dans la mythologie, notamment le fameux mythe de l'éternel retour que l'on retrouve dans le nazisme et dans le marxisme, et dans le mondialisme. Et, si vous voulez, la philosophie moderne cache une mythologie par le mensonge. Elle se prétend rationnelle, mais en fait, elle fait revenir des mythologies, des a priori mythologiques, ce pourquoi elle reprovoque la violence. Donc, je vais au fond des choses, j'espère ne pas avoir été trop compliqué.
Les gens vous liront pour mieux vous comprendre, mon cher.
Il faut lire, il faut, faire des efforts de lecture, parce que j'ai appliqué cette grille de lecture, donc girardienne. Je rends hommage à Girard. Voilà. C'est un hommage que je rends parce qu'il a quand même fait à une évolution personnelle et il a apporté à l'histoire de la pensée. Donc c'est déjà pas mal. Et je ne connais pas, moi, en France, d'autres auteurs, surtout les plus célèbres, qui ont au contraire nuit à la pensée au lieu de leur apporter.
Ok. Cher Pierre de Tirmont, est-ce qu'il y a des questions intelligentes et normales pour Alain ?
Oui. Alors déjà, j'ai remercié le CD Punk pour son don. Puisque l'excellent monsieur Pascal est là, peut-il nous dire s'il connaît des loges rosicruciennes autres que la vulgaire AMORC ou si c'est trop secret ?
Alors là, c'est un très vaste sujet. Il y a un ésotérisme rosicrucien, rose-croix, qui est dans la franc-maçonnerie telle qu'elle est, disons, officielle. Donc vous avez, même dans la franc-maçonnerie, alors il y a les pseudo-réguliers, hein, vous avez les irréguliers, le Grand Orient, qui sont athées. Alors d'ailleurs, je dis souvent, mais c'est eux qui ont raison. Alors ça plaît pas aux autres. Mais si vous voulez, finalement, comme le déisme de pacotille des constitutions d'Anderson a été nié finalement après par les... Il y avait une rupture en 1877. Mais de toute façon, tout l'ésotérisme maçonnique est à la fois hermétique et kabbalistique. Hein, donc la Kabbale, c'est la compromission de l'ésotérisme juif avec l'Égyptien, notamment. Et si vous voulez, à partir de ce moment, cet ésotérisme est porté par les sectes Rose-Croix du XVIIe siècle. Ce sont eux qui font muter la maçonnerie d'opérative à spéculative. Je précise quand même que la spéculative usurpe l'héritage des Templiers, usurpe l'héritage de l'opérative. Elle reprend, qu'importe. Ils l'ont reconnu, puis après ils leur nient, c'est le roi de l'embrouille. Mais vous avez dans toutes les loges des rites, alors il y a 36 rites évidemment, et dans ces rites, vous avez toujours des grades, des degrés rose-croix. Donc vous avez des rose-croix qui sont des vrais rose-croix reconnus, ils n'ont pas le droit de s'affirmer. Vous en avez d'autres qu'on va appeler des rosicruciens, parce qu'ils ne font pas partie d'une organisation reconnue comme rose-croix. Et vous avez toutes les sectes rose-croix alors, qui s'adressent là, à des gogos, hein, c'est le New Age, c'est tout ça, c'est très moderne aussi, voilà. Mais de toute façon, cet ésotérisme rose-croix rosicrucien, il est dans toutes les loges maçonniques. Celles qui se reconnaissent telles et celles qui ne se reconnaissent pas telles. Voilà, je ne sais pas si la réponse j'ai été claire, vous avez compris par rapport à...
Oui, c'est qu'il y a des rose-croix qu'on désigne habituellement comme telles, et vous dites que de toute façon, les idées rose-croix se retrouvent dans les loges de toute façon.
Et elles sont dans certains... Vous avez le chevalier Kadosh, vous avez le prince rose-croix, vous avez tout ça dans les rites. Donc ils sont rose-croix. Je tiens aussi à dire une chose là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet, mais je mets ça dans mon livre sur les rose-croix. C'est aussi d'actualité. Parce que pour les rose-croix, ils vont chercher leur lumière... Alors, la formule maçonnique, c'est vitriol. Va chercher, visite l'intérieur de la terre, tu vas y trouver la pierre philosophale ou la lumière. Et cette lumière, c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer. Et ça, on l'a vu aux Jeux Olympiques descendre à la cérémonie de clôture. Vous avez l'ange de lumière qui descend. C'est un petit clin d'œil. Hein. Les gens qui croient les Jeux Olympiques... Malheureusement, j'aime le sport, mais il est mis... au service de la propagande, malheureusement, antichrétienne et mondialiste. Mais voilà un exemple aussi concret.
Puis, naturellement, est-ce qu'il y a une autre question, éventuellement, intelligente ?
Alors, c'est pour toi, Salvatore Mundi. Est-ce que tes livres, L'infaillibilité pontificale et Où en sommes-nous de Monseigneur Gomme, vont-ils être réédités ?
Un jour peut-être, mais ce n'est pas la priorité, pour être tout à fait franc. Hein.
Une question de Stéphane Michel. Messieurs, Maurice Blondel n'est-il pas, avec Le Roi et La Bertonnière, le père du modernisme philosophique, à quand un livre sur Blondel ?
Il est là, le livre sur Blondel, chers amis. Puisque Monsieur Nogo m'est accusé à tort par le contradicteur auquel je réponds d'être un prémoderniste et de préparer le train de Blondel. J'avais fait un très long chapitre sur Blondel dans mon ouvrage qui est Nublius, qui est épuisé. Eh bien, j'ai reproduit cet article sur Blondel où je l'atomise. Et effectivement, Maurice Blondel, chers amis, est le créateur de l'hérésie matricielle de Vatican II, c'est-à-dire de la fusion entre l'ordre naturel et surnaturel, de la nature et de la grâce. Cette hérésie a été peaufinée par Henri de Lubac, et on la retrouve dans Gaudium et Spes, dans le conciliabule Vatican II. Et c'est la matrice du salut universel, puisque ça nous dit que la grâce sanctifiante est naturel à l'homme, ce n'est plus quelque chose qu'on obtient de façon surnaturelle, si je puis dire, mais qu'on obtient naturellement. Et donc, on meurt tous avec la grâce sanctifiante, et donc on est tous sauvés. Voici là, il a dit mot pour mot. Il a dit mot pour mot que l'humanité entière est en état de grâce. Bergoglio a dit mot pour mot que tout le monde serait sauvé. Voilà. Donc, Michel Polnareff est un résidu, je dirais, un reliquat du modernisme. Voilà.
Tu parles aussi de Blondel dans Les Apôtres du Salut Universel aussi, je crois.
J'en parlais pas encore, mais non. Si je fais une réédition des Apôtres du Salut Universel, je mettrai Blondel. Voilà.
Madame Nu, êtes-vous d'accord que le mandat faisant de Monseigneur Tuc, légat de Pie XI, est un faux ?
Je suis d'accord. Si on apporte la preuve, je dirais que c'est un faux. Mais au dernier Nobel, c'est pas un faux. Voilà. Et de toute façon, si vous voulez, mon combat catholique ne repose pas sur ce document. Donc peu importe, hein, j'ai envie de vous dire. Mais il se peut que des gens aient été mystifiés, mais encore une fois, il faut le prouver. Voilà. Quand on accuse, il faut étayer, il faut prouver. Sinon, ça ne vaut à rien. Voilà.
dans le ciel te demande si...
Et la parole de l'accusateur ne vaut pas plus que la parole de la personne qui se défend. La parole de la victime ne vaut pas plus non plus que la parole de l'accusé. Sinon, on est dans la barbarie judiciaire.
Ou dans le ciel 63 te demande si tu connais Maurice Pinet.
C'était un pseudonyme, Maurice Pinet.
Oui.
Oui, oui, je connais bien sûr. Oui, oui.
Voilà.
Bon, ben, on va s'arrêter là. L'émission était dense. Alors oui, j'ai oublié de préciser que je remplaçais exceptionnellement Henri de Lesquin ce soir. Donc Henri fera deux émissions de suite à son tour à partir de la semaine prochaine. Voilà. Merci en tout cas.
C'est moi qui vous remercie et je dis à tout le monde, chacun à sa place doit mener son combat avec ses amis, avec ses relations, dans sa vie sociale. Voilà. Donc ma conclusion sera très simple, hein, vous la connaissez, c'est que nous sommes des croisés.
Oh, voilà, tout à fait. Et puis n'oubliez pas, chers amis, que toutes ces émissions n'ont qu'une seule fin, qui est la grâce sanctifiante. Pourquoi sommes-nous catholiques ? Pour vivre et mourir avec la grâce sanctifiante. Voilà. Donc si vous n'êtes pas catholique, chers amis, eh bien, intégrez une vraie chapelle catholique, faites-vous baptiser et vivez en état de grâce. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais il faut le dire, donc on le dit. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouvera, non pas dans deux semaines, mais si je ne dis pas de bêtises, dans trois, enfin, voilà. Pas tout de suite, tout de suite, quoi. Voilà.
Merci.
Et, chers amis, n'hésitez pas à venir nous retrouver avec Alain le 29, donc samedi, là, à partir de 14h30, en gros, à la librairie Françoise, 202 rue Lecourbe. Voilà. Merci à tous et à bientôt.